à cette partie délicieuse du cou dont il touchait involontairement le tiède satin. Elle avait une robe très échancrée. Il la respirait toute par cette ouverture, d'où montait le bouquet vivant de la femme, l'odeur pure de sa jeunesse chauffée au grand soleil. Tout d'un coup, il eut un éblouissement. Il crut défaillir. « Non, non, je ne puis pas si tu ne restes pas tranquille. » Un flot de sang lui battait les tempes. Ses doigts s'égaraient, tandis qu'elle se renversait davantage, offrant la tentation de sa virginité, sans le savoir. C'était l'apparition de royale jeunesse, les yeux clairs, les lèvres saines, les joues fraîches, le cou délicat surtout, satiné et rond, ombré de cheveux follés vers la nuque. Et il la sentait si fine, si élancée, la gorge menue, dans son divin épanouissement. « Là, c'est fait » cria-t-elle. Sans savoir comment, il avait dénoué les brides. Les murs tournaient. Il la vit encore, nu-tête maintenant, avec son visage d'astre, qui secouait en riant les boucles de ses cheveux dorés. Alors, il eut peur de la reprendre dans ses bras, de la baiser follement, à toutes les places où elle montrait un peu de sa nudité. Et il se sauva, en emportant le chapeau qu'il avait gardé à la main, bégayant « Je vais l'accrocher dans le vestibule. Attends-moi, il faut que je parle à Martine. » En bas, il se réfugia au fond du salon abandonné. Il s'y enferma à double tour, tremblant qu'elle ne s'inquiétât et qu'elle ne descendît l'y chercher. Il était éperdu et hagard, comme s'il venait de commettre un crime. Il parla tout haut. Il frémit à ce premier cri jailli de ses lèvres. « Je l'ai toujours aimée, désirée, perdument !» Oui, depuis qu'elle était femme, il l'adorait. Et il voyait clair brusquement. Il voyait la femme qu'elle était devenue, lorsque, du galopin sans sexe, s'était dégagée cette créature de charme et d'amour, avec ses jambes longues et fuselées, son torse élancé et fort, à la poitrine ronde, au cou rond, aux bras ronds et souples. Sa nuque, ses épaules, étaient un lait pur, une soie blanche, polie, d'une infinie douceur. Et c'était monstrueux, mais c'était bien vrai. Il avait faim de tout cela, une faim dévorante de cette jeunesse, de cette fleur de chair si pure et qui sentait bon. Alors, Pascal, tombé sur une chaise boiteuse, la face entre ses deux mains jointes, comme pour ne plus voir la lumière du jour, éclata en gros sanglots. Mon Dieu, qu'allait-il devenir ? Une fillette que son frère lui avait confiée, qu'il avait élevée en bon père, et qui était aujourd'hui cette tentatrice de 25 ans, la femme dans sa toute puissance souveraine. Il se sentait plus désarmé, plus débile qu'un enfant. Et, au-dessus du désir physique, il l'aimait encore d'une immense tendresse, épris de sa personne morale et intellectuelle, de sa droiture de sentiment, de son joli esprit, si brave, si net. Il n'y avait pas jusqu'alors désaccord, cette inquiétude du mystère dont elle était tourmentée, qui n'acheva de la lui rendre précieuse, comme un être différent de lui, où il retrouvait un peu de l'infini des choses. Elle lui plaisait dans ses rébellions quand elle lui tenait tête. Elle était la compagne et l'élève. Il la voyait telle qu'il l'avait faite, avec son grand cœur, sa franchise passionnée, sa raison victorieuse. Et elle restait toujours nécessaire et présente. Il ne s'imaginait pas qu'il pourrait respirer un air où elle ne serait plus. Il avait le besoin de son haleine, du vol de ses jupes autour de lui, de sa pensée et de son affection dont il se sentait enveloppé, de ses regards, de son sourire, de toute sa vie quotidienne de femme qu'elle lui avait donnée, qu'elle n'aurait pas la cruauté de lui reprendre. À l'idée qu'elle allait partir, c'était sur sa tête, comme un écroulement du ciel, la fin de tout, les ténèbres dernières. elle seule existait au monde. Elle était la seule haute et bonne, la seule intelligente et sage, la seule belle, d'une beauté de miracle. Pourquoi donc, puisqu'il l'adorait et qu'il était son maître, ne montait-il pas la reprendre dans ses bras et la baiser comme une idole? Ils étaient bien libres tous les deux. Elle n'ignorait rien. Elle avait l'âge d'être femme. Ce serait le bonheur. Pascal, qui ne pleurait plus, voulut marcher vers la porte. Mais tout d'un coup, il retomba sur la chaise, écrasé par de nouveaux sanglots. Non, non, c'était abominable, c'était impossible. Il venait de sentir, sur son crâne, ses cheveux blancs comme une glace. Et il avait une horreur de son âge, de ses 59 ans, à la pensée de ses 25 ans, à elle. Son frisson de terreur l'avait repris, la certitude qu'elle le possédait, qu'il allait être sans force contre la tentation journalière. Et il la voyait lui donnant à dénouer les brides de son chapeau, l'appelant, le forçant à se pencher derrière elle pour quelque correction dans son travail. Et il se voyait aveuglé, affolé, lui dévorant le cou, lui dévorant la nuque, à pleine bouche. Ou bien, c'était pis encore, le soir, quand ils tardaient tous deux à faire apporter la lampe, un alanguissement sous la tombée lente de la nuit complice, une chute involontaire, l'irréparable, aux bras l'un de l'autre. Toute une colère le soulevait contre ce dénouement possible, certain même, s'il ne trouvait pas le courage de la séparation. Ce serait de sa part le pire des crimes, un abus de confiance, une séduction basse. Sa révolte fut telle qu'il se leva courageusement, cette fois, et qu'il eut la force de remonter dans la salle, bien résolu à lutter. En haut, Clotilde s'était tranquillement remise à un dessin. Elle ne tourna pas même la tête. Elle se contenta de dire « Comme tu as été longtemps, je finissais par croire que Martine avait une erreur de 10 sous dans ses comptes. » Cette plaisanterie habituelle sur l'avarice de la servante le fit rire. Et il alla s'asseoir tranquillement, lui aussi, devant sa table. Ils ne parlèrent plus jusqu'au déjeuner. Une grande douceur le baignait, le calmait depuis qu'il était près d'elle. Il osa la regarder. Il fut attendri par son fin profil, son air sérieux de grande fille qui s'applique. Avait-il donc fait un cauchemar ?